Marvel, la fabrique des super-héros. Avec Charline Roux.
Voyager avec Marvel, c'est l'assurance du dépaysement. Ce Marvel Tour vous emmènera de la Terre à Nowhere en passant par Asgard, Titan et le mythique Wakanda. Merci d'avoir choisi notre compagnie.
La multiplicité des mondes explorés par le MCU, à quoi ressemblent ces mondes? Y fait-il bon vivre, petit guide touristique?
Ça, c'est pour New York.
Je l'adore.
Philippe Gedge, vous êtes journaliste au Point Pop et co-réalisateur du documentaire Marvel Renaissance. Pourquoi cet attachement à New York en particulier?
New York, c'est la ville berceau de l'industrie des super-héros depuis toujours. C'est la ville où ont convergé au début du XXe siècle les dessinateurs, les scénaristes de bandes dessinées qui au début exerçaient leur art dans les strips de la presse quotidienne new-yorkaise. Et très souvent, c'était des gens qui étaient issus des vagues d'immigration d'Europe centrale et qui héritaient ces boulots de petits dessinateurs de strip parce que c'était les premiers boulots qu'on filait aux immigrés. Et New York a toujours donc tenu une place de cœur et une place économique extrêmement importante dans l'histoire des super-héros, puisque ce sont ces artistes-là des strips qui ont basculé petit à petit dans le monde des comics. Industrie des comics qui est née à New York, et parallèlement à cela, les héros Marvel qui sont apparus dès 1939 avec Submariner, Namor, et la Torche Humaine, une première version de la Torche Humaine. Leurs aventures se déroulent à New York. New York a toujours été une sorte de mégapole fantasmatique avec ses gratte-ciel prométhéens, qui est le théâtre idéal d'affrontement des héros. Il y a vraiment une texture mythologique à New York qui est bien plus importante, je trouve, et bien plus efficace que Los Angeles et sa topographie extrêmement plate. Et donc voilà, Spider-Man, on ne l'imagine qu'à New York, on ne l'imagine pas à Los Angeles. Donc logiquement, quand Marvel a commencé à faire ses films, ils ont basé les super-héros à New York. Le QG des Avengers, il est à New York. Spider-Man, Peter Parker, il habite dans la banlieue de New York. C'est New York.
Olivier Delcroix, auteur du livre « Les super-héros au cinéma » aux éditions Hobeck.
Effectivement, il faut se rendre compte quand même que l'univers des super-héros est né aux États-Unis, dans cette bonne vieille ville de New York, avec cette verticalité, ces gratte-ciels, ces buildings, cet appel aussi vers le divin, vers le spirituel. Ces grands gratte-ciels, en fait, quand on a eu la chance, par exemple, de se balader dans New York, on se rend compte qu'en réalité... Dès qu'on lève les yeux, on a envie de voir quelqu'un se balader à l'intérieur et sauter d'un gratte-ciel à l'autre. C'est typiquement ce que j'ai pu me dire, moi, quand j'ai découvert, quand je me suis baladé à New York. J'avais envie de voir Spider-Man swinguer d'un immeuble à l'autre, parce que c'est ce dont on a envie. On a envie de voir un homme se balader là-dedans, dans cette immensité. Et je pense que les Juifs new-yorkais qui sont arrivés juste avant la Seconde Guerre mondiale et qui ont créé les super-héros progressivement, ils ont eu envie de dépasser cette cité, de c'est inspirant.
Il malmène particulièrement la ville dans le Marvel Cinematic Universe, Philippe Gedge.
Il la ravage, il la détruise. Bon, il faut dire qu'ils n'ont pas le monopole de ça. Hein. Ouais. Il y a eu des tas d'autres films dans la mythologie du cinéma hollywoodien où New York est une ville de martyrs. Et oui, dans Avengers, elle est une première fois ravagée. Ça continue dans le dernier Avengers Infinity War. Et heureusement d'ailleurs, Marvel a intégré que tout cela est quand même faisait parfois des morts. Dans Captain America Civil War notamment, l'ennemi principal du film, le Baron Zemo, se venge des Avengers parce qu'une de leurs précédentes batailles a commis plusieurs victimes.
Olivier Delcroix, la ville, c'est la menace donc.
La ville, c'est la menace. La ville, c'est aussi là où ça se passe. La ville, c'est la verticalité de l'action. C'est le drame. C'est la dramaturgie dans toute sa splendeur. Donc, les super-héros n'auraient pas pu effectivement naître dans des petites cabanes et dans des huttes. C'est pas possible. Il leur faut cette espèce de d'ailleurs c'est Metropolis. Vous voyez, c'est Fritz Lang, c'est cette énorme métropole qui fait que tout d'un coup on a besoin d'être au-dessus de. D'ailleurs, super-héros, c'est ça, c'est être au-dessus de.
Et du coup, ça permet d'aller encore plus haut.
Exactement.
Parce qu'on visite aussi l'espace
tant
dans
qu'à
le MCU.
Faire. Et donc voilà, on va dans différentes planètes, on s'amuse, on découvre que Galactus est un dévoreur de monde, on découvre que ce surfeur d'argent doit lui apporter son lot de planètes à manger, voilà, et on est effectivement à partir de là, et c'est la même chose pour tous les super méchants galactiques, et je parle pas de Thanos, évidemment, qui est maintenant le nouveau Dark Vador de l'univers Marvel et ô combien il réussit cette tâche. Voilà, les personnages, quand ils sont sur Terre, ont un appel vers le spirituel, vers les étoiles, et une fois qu'ils y sont, là on découvre des super méchants qui sont extraordinaires.
Asgard, c'est une représentation de quoi, selon vous, Philippe Gedge ?
Asgard, c'est une cité qui est inspirée de la mythologie nordique, qui existe vraiment dans cette mythologie, et que Marvel a récupéré pour en faire l'un des 9 royaumes d'une sorte de réalité parallèle à la Terre. Et Asgard, c'est une sorte de petit paradis. Et les Asgardiens, qui est un peuple dont fait partie Thor, c'est une race très puissante qui est reconnue comme une sorte de garant de la paix, d'une paix juste entre ces 9 royaumes. Voilà, Asgard, c'est un peu l'ONU. C'est le temple de la raison. C'est là où on essaye d'accorder les peuples entre eux et de ne surtout pas laisser la guerre s'imposer entre ces peuples-là. D'apparence, aussi bien dans la bande dessinée que dans les films, c'est un lieu assez paradisiaque qui est dans une espèce d'apesanteur dans un espace parallèle qui est relié à la Terre et aux autres mondes des 9 royaumes par ce qu'on appelle le Bifrost, qui est une espèce de pont en arc-en-ciel. Et donc c'est une cité, la cité d'Asgard est une cité complètement luxuriante. La surface, je crois, est assez vaste, moins vaste que la Terre, mais l'équivalent de celle des États-Unis. Et en dessous, c'est une espèce de gigantesque astéroïde. Mais au-dessus, c'est une surface plutôt plate, une cité assez étincelante, des lacs, des forêts. C'est là où réside la famille de Thor, son père Odin, et c'est un lieu encore une fois pacifique, luxuriant, avec une nature généreuse. Voilà, c'est une sorte de paradis des dieux.
Olivier Delcroix.
On est effectivement sur la planète Asgard, dans une représentation qui est très mythologique, avec quelques ajouts qui sont des ajouts liés au graphisme américain du début du siècle. On pense à Alex Raymond, on pense à Flash Gordon, à cette espèce de baroque rococo extraordinaire développé par tous ces graphistes qui notamment nourrissaient les revues de science-fiction et d'anticipation comme Météor et autres, j'en passe et les meilleurs. Mais bien sûr, Asgard, c'est une représentation de la mythologie, mais revue avec la science-fiction et l'anticipation de l'Amérique.
Alors dites-moi, qu'est-ce que vous savez à propos du Wakanda ?
C'est un pays du tiers-monde, connu pour ses tissus, ses bergers, ses costumes traditionnels.
C'est une façade. Des explorateurs l'ont recherché enfin. Leur légendaire Eldorado. Ils l'ont cherché en Amérique du Sud. Et il se trouvait en Afrique depuis toujours.
Catégorie petit paradis toujours, Philippe Gedge, on a vu apparaître l'année dernière le Wakanda.
Ouais, alors le Wakanda, il a une dimension politique assez importante, le Wakanda. Bon, il a été créé dans la bande dessinée dès les années 60, je crois que c'est la première apparition de Black Panther, c'est 1968, par Jack Kirby et Stan Lee. Donc on est vraiment dans l'Amérique de la revendication des droits civiques pour les Afro-Américains. C'est l'année 68 où Martin Luther King d'ailleurs est assassiné. Mais il y a eu une importance vraiment absolument incontournable de ce mouvement et de ces revendications-là. Et le Wakanda, c'est une représentation, c'est une des premières représentations très positives d'un pays, et un peu fantasmé bien sûr, mais d'un pays africain technologiquement avancé, qui est dirigé par une monarchie, mais une monarchie éclairée. Le prince T'Challa et son père. C'est une monarchie qui a... c'est un pays qui a profité de l'existence d'une source d'énergie d'origine extraterrestre, le vibranium, qui est présent depuis des millénaires dans ce pays, et dont le pays a profité pour développer toute une palette de différentes technologies qui à la fois en font le pays technologiquement le plus avancé d'Afrique, mais aussi qui est le pays le plus dissimulé d'Afrique, puisqu'ils ont fait le choix, les habitants du Wakanda, et le royaume du Wakanda a fait le choix de vivre caché, en utilisant sa technologie pour créer une sorte de bouclier magnétique. Ne me demandez pas la vraisemblance du truc, mais en gros, le royaume est invisible à nos yeux, pour se protéger de la mainmise du monde occidental, qui s'est pas privé pour piller les ressources de l'Afrique au fil des décennies. Et donc le Wakanda a décidé de se soustraire à ça pour se développer lui-même grâce au vibranium. Et visiblement, le peuple wakandien est des plus heureux sous le règne de T'Challa.
Si on ne défend pas la galaxie, qui le fera ?
On te suit.
Olivier Delcroix, la représentation de l'espace dans Les Gardiens de la Galaxie ou dans le dernier Avengers, vous la qualifieriez comment ?
Pour moi, en fait, d'abord, je la trouve extrêmement réussie. Je trouve que c'est de la part de Marvel une parfaite réussite. Et puis, c'est une idée quand même qui remonte à 77 quand George Lucas fait La Guerre des Étoiles. Chez Marvel, tout de suite, c'est Marvel qui met en bande dessinée La Guerre des Étoiles, Star Wars, et moi je me souviens encore l'avoir découvert dans Strange et dans Titan. Je lisais les aventures de Han Solo, de Luke Skywalker, en bande dessinée, vue et transposée par Marvel. Donc je pense que les embryons de la façon dont on va traiter l'espace à travers Marvel et à travers son MCU est passé par le filtre de La Guerre des Étoiles. Et d'ailleurs, il est tellement logique que lorsqu'on voit Les Gardiens de la Galaxie, on s'aperçoit que c'est quoi ? C'est Star Wars 2.0. C'est Star Wars avec des super-héros. Et donc, cette représentation est celle qui est la plus proche des principes édictés par Joseph Campbell. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur un terrain de jeu qui est fantastique, qui est illimité, mais qui en même temps reprend tous les codes des films médiévaux. C'est-à-dire que vous avez des castes, vous avez des guerres, vous avez des... Évidemment, on fait une mise en parallèle, mais avec ce quotient démultiplicateur qui fait que l'espace est infini et que ce sont des lointaines galaxies, très lointaines, far far away, comme disait notre ami Lucas.
Philippe Gage.
Dans le MCU, c'est une représentation de l'espace qui est assez conforme à ce qu'on a vu dans les bandes dessinées, assez fantasmatique, assez inquiétante, très imaginative. Par exemple, Nowhere, qui est une espèce de colonie minière qui a été créée dans un crâne, dans les restes d'un crâne géant qui appartient à une race extraterrestre qui s'appelle les Célestes. Nowhere, c'est une sorte de gigantesque monde créé à l'intérieur de ce crâne géant et qui dérive aux confins de l'espace, à la limite d'une zone de néant absolu. Et c'est à la fois Nowhere, et donc Nowhere qu'on a découvert dans Les Gardiens de la Galaxie et qu'on retrouve dans Infinity War. Nowhere, c'est une sorte de gigantesque base spatiale qui est à la fois un repère de malandrins à la Star Wars, mais qui est aussi une sorte de porte d'observation de tout l'univers. C'est une sorte de supermarché géant de toutes les technologies les plus avancées qu'on peut trouver dans l'univers. C'est un supermarché géant où viennent s'approvisionner toutes les races différentes de l'univers. Donc c'est une sorte de gigantesque souk hyper technologique, Nowhere. Et voilà. Et donc ça, c'est un des lieux d'aventure des Gardiens de la Galaxie. Et c'est typique de l'imagination des auteurs de Marvel. C'est foisonnant. Des races très différentes se croisent. Et c'est à la fois un lieu très excitant, amusant et dangereux.
Renan Cros, journaliste chez Cinématiseur et enseignant en histoire du cinéma.
Il y a chez Marvel cette idée que, au départ, c'était proche des gens. Donc ça se passait à New York, ça se passait dans les grandes villes. Il y avait une sorte d'idéal urbain. Et puis, petit à petit, ils se sont rendus compte que peut-être ça manquait un peu, bizarrement, de fantaisie, de merveilleux. Et on voit bien que, notamment, je pense que le pivot, c'est Les Gardiens de la Galaxie, qui a été, au départ, qui était un peu ce qu'on appelle un sleeper hit. C'est-à-dire, en gros, c'était James Gunn, c'est plutôt un réalisateur qui vient de la série B, de la série Z, du film pop, qui n'est pas du tout quelqu'un attendu dans ce type de cinéma. Et puis lui, il est arrivé avec son univers, et un univers justement décalé, avec ce qui se passait vraiment là, cette fois-ci dans l'espace. Il y avait du décalage, de l'ironie, et ça a cartonné. Et je pense que ça a été, à mon avis, un déclencheur qui était, à mon avis, déjà là dans l'esprit de Kevin Feige, le producteur de Marvel. C'est-à-dire, en gros, d'amorcer une stylisation, de montrer que Marvel, c'était pas que des films, c'était aussi des gens qui étaient capables de styliser des univers.
Marvel. La fabrique des super-héros. Une série originale proposée par Création Collective et France Inter.